Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Et la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Merci Jérôme Sorel à la réalisation de cette émission. Jérôme, cette semaine, je vais te présenter Albert. C'est le nom de code d'un projet, des modèles d'IA génératifs spécialement déployés et entraînés par les services publics. Oui monsieur, l'administration française configure ses propres outils d'IA pour mieux servir ses administrés. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles, c'est Parlez-moi d'IA, nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous leurs aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web bien sûr, cause-commune au singulier.fm et sur son app mobile, la bande FM 93.1 et le DAB+, et sur podcast, votre plateforme préférée, n'hésitez pas à poser un petit like, un petit partage. C'est notre seule récompense. Et en plus, ça va manipuler les algorithmes. Et forcément, c'est cool de manipuler les algorithmes. Alors, on va donc faire la connaissance aujourd'hui d'Albert. Le programme qui recherche et qui cherche à mettre en place l'IA générative au service des services publics. Concrètement, comment l'État va utiliser l'IA générative? Comment ces nouveaux outils peuvent aider les agents publics à mieux servir les usagers? Et tout cela, arrivons-nous à le faire tout en restant indépendants des grands acteurs numériques? Sommes-nous souverains dans l'usage de l'IA par les services publics? Avons-nous vraiment les compétences au sein de l'État pour réaliser ce type de projet? Plein de questions ce sujet. Notre invité du jour est ingénieur, mathématicien, spécialiste en data science. Il s'appelle pas Albert. Il est aujourd'hui responsable scientifique et technique à la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, où il s'occupe de développer et de déployer des algorithmes au sein des services publics. Bonjour Pierre-Étienne Devineau.
Bonjour Jean-Philippe.
Merci d'être avec nous à distance. Alors Pierre-Étienne, parlez-moi d'IA. Si vous deviez expliquer à votre grand-mère ce qu'est Albert et ce sur quoi vous travaillez, comment vous pourriez le résumer ?
Alors, je dirais à ma grand-mère que c'est un logiciel qui vient lire des textes, essaye de les analyser et propose soit un résumé du texte, soit de répondre à des questions sur le texte.
D'accord. Et du coup, c'est quelque chose qui a été développé par la DINUM. C'est un projet DINUM. D'abord, une expérimentation ?
Absolument. Donc c'est une expérimentation qui cherche à repartir des modèles, ce qu'on appelle les modèles fondation, donc des modèles d'IA grand public et libre d'utilisation,
ouais,
pour les modifier,
ouais,
en leur donnant à voir les données d'administration, des documentations, des fiches techniques, etc., produites par les services publics, de sorte à ce que cette IA va s'en imprégner et être en mesure de répondre à des questions sur cette base. Et donc on dit que c'est une expérimentation, puisqu'on a commencé à l'utiliser notamment ce qu'on appelle les maisons France Service, qui sont disons les sortes de guichets où les Françaises français peuvent se rendre pour se faire aider dans leur démarche administrative.
Alors vous avez commencé à le dire, donc qu'est-ce que ça permet de faire ces dispositifs techniques d'IA pour l'administration française? C'est utile à quoi? C'est quel type de grand cas? Alors sans forcément rentrer dans les cas d'usage et dans les clients, mais par grande catégorie en fait, ça permet de faire quoi?
Alors par grande catégorie, tout ce que ces logiciels ont en commun, c'est qu'ils permettent d'analyser des textes. Et donc une fois qu'on est en mesure d'analyser des textes, on peut aussi générer d'autres textes, produire des textes. Donc les grands usages qu'on a derrière, nous, c'est de pouvoir répondre à des questions,
mmh,
sur la base d'une base de documentaires.
De connaissances,
ouais. Et c'est une base de connaissances. Vous fournissez tout un ensemble de sources d'informations et l'algorithme va trouver dans ces sources le passage qui répond le mieux à votre question et vous proposer une petite synthèse de la réponse. Une autre grande famille de cas d'usage, c'est de proposer des résumés. Vous fournissez un document de plusieurs dizaines de pages et l'outil vous propose un résumé en une page, une demi-page, tout ça c'est paramétrable. Ou encore de prendre plusieurs documents qui ont chacun leur plan et de proposer une sorte de synthèse qui les combine.
Donc c'est bon là, du coup, au niveau des concours de la fonction publique, il n'y a plus besoin de réviser la note de synthèse. C'est désormais Albert qui fait les notes de synthèse de l'administration française.
Non. Heureusement non. Non. Donc on parle dans les deux cas d'outils d'aide. Donc un outil d'aide à la rédaction et un outil d'aide à la recherche d'informations.
D'accord.
Et c'est vraiment, il faut vraiment le voir comme un assistant qui se perfectionne petit à petit, mais qui n'aura jamais vocation à remplacer le travail de l'agent public.
D'accord.
Simplement de l'aider.
Mais du coup, vous lui avez quand même montré beaucoup de notes de synthèse, beaucoup de documents administratifs, et il va avoir la capacité de générer du texte sous cette forme-là, cette forme enfin, très significative de l'administration, qui est très factuelle, qui est très... il va pouvoir le faire, ça. Il va quand même, dans la forme, pouvoir respecter la note de synthèse et la manière de faire, quoi.
C'est l'exercice qu'on est en train de se donner, mais sachant que selon le service, il peut y avoir aussi différentes grandes cultures de la note de synthèse.
Ah.
Donc on essaye de naviguer entre ces cultures pour apprendre un petit peu le substrat commun entre toutes ces notes.
Et des subtilités entre Bercy et les autres ministères, c'est ça que vous voulez dire?
Alors, forcément exactement entre Bercy et les autres ministères, mais il peut y avoir une subtilité sur le type de plan, sur la longueur. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de partir avec quelques administrations pilotes pour faire ce premier outil de note de synthèse sur mesure avec elle, et ensuite on va le généraliser.
Alors justement, si on fait un peu le tour de vos clients de l'expérimentation, ceux qui ont dit « Ok, moi je veux bien partir tester ces outils-là », qui sont ces clients et comment concrètement ils utilisent l'outil ?
Alors c'est principalement des administrations de l'État central, même si on a quelques collectivités qui sont intéressées et qu'on embarque petit à petit.
Ah, qui vont arriver,
donc,
ouais.
Qui vont arriver. Les deux premières administrations avec lesquelles on a travaillé, c'est l'Agence nationale de cohésion des territoires via le réseau des maisons France Service.
Alors c'est quoi les réseaux des maisons France Service? Ça sert à quoi en théorie?
Alors les réseaux des maisons France Service, c'est un ensemble de lieux, soit fixes, soit mobiles. Il y a aussi des maisons France Service dans des bus qui sont répartis sur le territoire et où les citoyens et citoyennes peuvent se rendre avec ou sans rendez-vous, ça dépend, pour se faire accompagner par des agents publics, soit pour répondre à des questions que les citoyens ont, soit carrément pour faire les démarches administratives avec eux.
D'accord. Et donc du coup, qu'est-ce que ça leur apporte, cet outil, aux agents publics qui reçoivent ces publics?
Alors là, on a l'outil qu'on est en train d'expérimenter dans les maisons France Service. C'est un outil qui est adapté aux situations où les citoyens ont pris rendez-vous et au moment de leur prise de rendez-vous ont indiqué « je voudrais être aidé sur tel ou tel genre de choses ».
Ouais.
Et donc on fournit à Albert la raison du rendez-vous et Albert prépare une fiche pratique en fournissant à la fois les informations clés pour répondre à la demande de l'usager,
ouais,
et les liens pratiques vers le bon téléservice pour faire la démarche ou l'administration à contacter,
ouais,
ou
c'est...
les questions associées, etc. Et donc à chaque fois l'exercice, quand Albert fournit une réponse, c'est qu'il puisse donner la source de sa réponse.
Oui, ça c'est pas courant d'ailleurs en IA générative d'arriver à remonter sur une source potentielle.
C'est pas courant, mais c'est de plus en plus courant.
D'accord.
C'est ce processus, alors c'est un nom anglais, ça s'appelle la Retrieval Augmented Generation.
Ouais.
Donc la génération augmentée par le fait de retrouver des informations.
Ouais.
Et donc ça marche en deux temps. D'abord, vous prenez cette base de connaissances, donc cette base de documents, et vous l'analysez pour détecter de quoi parle chaque paragraphe. Puis vous enregistrez le sens, ce qu'on appelle la représentation sémantique.
Ouais.
Donc vous enregistrez chaque paragraphe avec, on va dire, des étiquettes qui correspondent à ce dont il parle.
Mmh.
Et ensuite, quand vous venez poser des questions à Albert, Albert va chercher dans toutes les étiquettes qu'il a fabriquées lesquelles semblent les plus proches de votre question.
D'accord.
Et donc c'est ces textes-là qui va relire au moment de répondre à votre question. Et donc, il va vous répondre sur la base de ces extraits les plus pertinents.
Donc, dans ce cas-là, en fait, l'IA sert d'assistant à l'agent public en préparant le rendez-vous, finalement.
Oui.
Et ça permet, pendant le rendez-vous, qui n'est pas forcément toujours très long, d'être très efficace sur la manière de répondre à la question de l'usager, voire même de lui donner des éléments supplémentaires, c'est ça ?
Exactement. Et en fait, ça permet de gagner le maximum de temps sur la recherche d'informations pour consacrer le temps du rendez-vous à vraiment l'accompagnement de l'usager quand il a besoin de faire tu as besoin d'aide pour faire la démarche en ligne, de remplir les formulaires, etc. Donc, c'est passer moins de temps à chercher d'informations et plus de temps à faire ensemble.
Et l'usager, il repart avec sa fiche rédigée par Albert ou pas à ce point-là quand même?
Pas à ce point-là.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage? Est-ce qu'il y a vous avez d'autres clients publics qui viennent vous demander des choses en particulier avec Albert?
Oui, bien sûr. Donc sur le sujet des notes de synthèse, on a commencé, alors le premier service sur lequel on a travaillé, c'est la Cour des comptes. Maintenant, il y en a d'autres qui ont rejoint l'aventure
oui,
sur ce sujet.
Oui, c'est des rapports de synthèse qui sont souvent costauds en plus.
Qui sont tout à fait conséquents, mais qui ont le bon goût d'avoir des plans très clairs, très travaillés.
Ah, oui.
Et donc un des exercices, c'est de pouvoir repartir du rapport de chambre régionale des comptes pour essayer d'en faire une synthèse croisée.
Ouais.
Et donc l'avantage, c'est qu'on peut fournir à Albert des exemples de rapports produits par les chambres régionales des comptes et du rapport national correspondant à la Cour des comptes.
Très bien.
Donc on montre un petit peu à Albert comment l'exercice a été fait par le passé pour qu'il puisse, à son tour, aider à le faire. Donc sur le sujet avec la Cour des comptes, on est encore en phase expérimentale avec eux.
Et c'est quand même, du coup, Albert est un bon assistant de Cour des comptes. Il a bien compris comment il fallait faire un rapport et comment il fallait le synthétiser.
Il est en train d'apprendre, c'est un élève en formation.
C'est bien, vous êtes humble avec l'outil que vous développez, mais effectivement, je crois savoir que ça marche plutôt très bien. Dans toutes ces données, dans tous ces rapports publics, souvent, il y a des données nominatives. Et du coup, c'est un peu sensible parce que ça veut dire qu'on donne à manger à l'IA pas mal de données où à l'intérieur il y a des noms et des prénoms de personnes, des noms de sociétés. Comment on gère justement le fait d'entraîner un modèle avec ces données nominatives?
Alors, c'est une excellente question qu'on est en train d'étudier avec la CNIL. Pour l'instant, le choix sur lequel on est parti, c'est d'essayer de distinguer deux phases. Donc la phase de conception du modèle, la phase où on alimente le modèle,
ouais.
Et la phase où on l'utilise. Et dans la phase où on alimente le modèle, on essaye de lui donner peu ou pas de données personnelles.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'on a une première étape où on va retirer de cette base d'exemple, de cette base, ce qu'on appelle la base d'apprentissage, les données personnelles via des règles en fait qui permettent de les trouver et de les retirer au cas par cas. Donc et à côté de ça, ce qu'on fait pour ne pas avoir de données personnelles, c'est qu'on a toute une stratégie où on crée des fausses données, c'est-à-dire des données qui ressemblent à des données authentiques, mais qui n'en sont pas, et ce qu'on appelle des données synthétiques. Et donc les données synthétiques ne contiennent pas de données personnelles, puisqu'elles sont sur des exemples factices,
et ça,
mais réalistes.
Vous les générez avec de l'IA générative, du coup.
Exactement. Et c'est là où ça devient amusant, c'est qu'on utilise des outils d'IA générative pour générer des exemples factices, mais réalistes, qu'on donne ensuite à manger à Albert pour l'améliorer. Donc c'est l'IA générative qui permet de s'améliorer elle-même.
Bon, bah écoutez, là, on a fait un bon tour d'horizon, un bon premier tour d'horizon de vos clients, de vos usages. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Garlaban, notre programmateur musical, voulait vous remercier aujourd'hui pour tous vos partages et toutes les informations que vous nous donnez. Et donc, il vous offre ce morceau, A Token of Gratitude, un signe de gratitude de Radio Depp. Bye. Radio Dep. Merci Garlaban. Vous êtes toujours sur Cause Commune, en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré à la découverte d'Albert, le dispositif d'IA génératif conçu et déployé par le service public français, avec Pierre-Étienne Devineau, l'un des chefs d'orchestre du dispositif. Alors, Pierre-Étienne, figurez-vous que Jérôme a une question. Et donc, il a le droit à une question dans l'émission.
Excellent.
Voilà.
Oui, alors donc au fait c'est la question que je me posais pendant la pause musicale, mais combien êtes-vous dans votre service à travailler là-dessus, parce que c'est quand même mes impôts tout ça.
Alors, c'est une très très bonne question. Donc avec vos impôts, on rémunère en ce moment entre 10 et 15 personnes au sein du service Etalab qui est en charge du développement d'Albert.
Très bien. Et moi je vais continuer du coup sur ce que vous faites et sur le dispositif technique qui est derrière le programme. On a parlé donc des modèles, donc vous utilisez des modèles existants, vous n'avez pas créé des modèles fondationnels pour ça. C'est quoi les modèles que vous utilisez pour réaliser ces services?
Alors on utilise Llama 2, Mistral et des modèles dérivés de Mistral comme OpenRMS.
D'accord, c'est des modèles open source je crois.
Absolument, donc les modèles Mistral en particulier et ses dérivés sont des modèles qui ont une licence Apache, donc c'est une licence qui nous permet de les réutiliser librement, et c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, pour notre autonomie stratégique.
Nous aussi, on est très sensible à l'open source sur Cause Commune, je vous rappelle les émissions de Libre à vous sur le sujet. Donc Llama 2, c'est le modèle open source développé par Meta, la boîte de Facebook, et Mistral, c'est un acteur français quasiment, enfin qui a même pas un an maintenant, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et donc du coup, comment, essayez de nous expliquer, moi j'essaie de comprendre. Donc c'est des modèles qui sont publiés quelque part, c'est-à-dire que vous pouvez aller les chercher comme ça, vous pouvez aller les récupérer.
Absolument.
Et alors comment ça se passe? Vous les récupérez, qu'est-ce qui se passe après du coup?
Donc en fait on commence par les récupérer et ensuite on va vouloir les transformer un petit peu. Et pour les transformer on fait ce qu'on appelle du fine-tuning.
Ouais.
Donc on va prendre les données de l'administration qu'on a préparées, par exemple les exemples de résumés ou les exemples de questions-réponses sourcées qu'on a fabriquées à l'avance, mm-hmm, à partir des fiches d'information, et on vient modifier 1% du modèle à peu près.
D'accord.
Avec ces données pour déplacer un peu la manière dont le modèle fonctionne.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le modèle, à 99%, il fonctionne déjà. Vous pouvez déjà lui parler, vous pouvez déjà interagir avec lui. Mais pour qu'il soit meilleur, finalement, dans la fonction dans laquelle vous allez lui demander de travailler, vous lui donnez des données supplémentaires et des éléments supplémentaires, c'est ça?
Exactement. Et en fait, les éléments supplémentaires qu'on lui donne, alors déjà, ça va l'aider à mieux parler français, à mieux maîtriser le langage administratif aussi, pour essayer de bien le comprendre et pourquoi pas de bien le restituer. C'est une langue à part. C'est une langue à part, il est important de bien la comprendre et de bien comprendre son vocabulaire aussi, ainsi que les sigles administratifs par exemple.
Oui, rien que ça déjà, ça doit effectivement beaucoup tourner dans les processeurs, rien que les sigles de l'administration française, effectivement.
Ok, oui. Et ensuite, une chose qu'on fait quand on vient modifier ce petit pourcent des paramètres du modèle, c'est qu'on donne des exemples des activités sur lesquelles on veut que le modèle soit bon. Donc, exemple de résumé. Alors, on a toute une stratégie pour faire les résumés de textes longs. Grosso modo, d'ailleurs, je peux vous le raconter en une phrase. En fait, ce sont des modèles qui sont doués pour faire des résumés de textes très courts, transformer un paragraphe long en un paragraphe court. Mais quand on veut transformer un document très long en un document très court, il y a tout un paquet de paragraphes.
Oui.
Donc, on a une stratégie où on vient découper le texte selon son plan en différentes parties, puis on découpe la partie en différents paragraphes, on résume chacun des paragraphes, ça donne un texte un peu plus court, puis on recommence, etc., jusqu'au moment où on a un texte suffisamment court.
Et c'est quand même intelligible à la fin, ce qu'on obtient.
Et c'est quand même intelligible, absolument.
D'accord. Et ça, alors, pour bien comprendre encore une fois, toutes ces opérations techniques, vous les faites sur quel type d'infrastructure? C'est-à-dire qu'on récupère un modèle, on récupère un code source, quelque part, sur un repository sur Internet, publié par Llama et Mistral. Je ne sais pas où est-ce qu'ils publient d'ailleurs, Llama et Mistral, ils publient comme tout le monde sur GitHub ou...
Alors, les codes sont publiés sur GitHub. Après, les modèles sont publiés sur leur site respectif, mais sont aussi concentrés sur Hugging Face, qui est un petit peu l'équivalent de GitHub pour les modèles d'IA.
Oui. Donc, vous les récupérez. Et pour justement les fine-tuner, pour les préparer, comment vous faites? C'est quoi techniquement? Où est le serveur, en fait?
Alors, aujourd'hui, on loue des serveurs dans le cloud public
Oui.
Pour nous permettre de faire ces fine-tuning, de faire ces modifications assez légères, et ensuite de pouvoir utiliser les modèles, ce qu'on appelle en production, donc pour les utiliser au quotidien. Et en fait, la contrainte qui vient avec ces modèles, c'est que ce sont des modèles qui sont beaucoup trop gros pour tourner sur votre ordinateur ou le mien, donc on a vraiment besoin de ces serveurs en continu pour les utiliser.
Et le cloud public, c'est des serveurs que l'administration publique maîtrise, c'est ça?
Pardon, oui, cloud public, c'est un anglicisme, mais c'est public au sens anglais, donc c'est pas l'administration publique, ça veut dire le cloud commercial.
D'accord.
Où on loue actuellement des serveurs. Mais là, c'est une période de transition. À côté de ça, on a commandé des serveurs sur une infrastructure qu'on partage. Et donc, sur ces serveurs qui vont réellement appartenir à l'administration publique, on pourra faire tourner nos modèles à l'avenir.
D'accord. Et juste par curiosité, aujourd'hui, vous allez chez quel type de prestataire pour faire ça?
Alors, on va aujourd'hui chez des prestataires européens qui ont le label Secnum Cloud, qui est un label qui nous permet de, entre autres, disons, de mettre des données confidentielles.
D'accord.
Du point de vue ça pourrait quasiment être du secret défense.
Oui.
En l'occurrence, c'est pas le cas, mais ça pourrait. Mm-hmm. Et il y a qu'une petite partie, que quelques acteurs qui ont ce label-là.
D'accord. Donc, vous faites vraiment très attention à là où on met les données, même si elles sont pas totalement chez vous. Et du coup, ma grande question, c'est que du coup, on voit bien comment ces modèles open source permettent finalement d'avoir une plus grande souveraineté vis-à-vis de ce qu'on veut en faire, et peut-être aussi une diffusion plus rapide, c'est ça, c'est pour ça qu'on utilise de l'open source finalement.
Alors on utilise de l'open source pour au moins trois raisons.
Oui.
La première raison, c'est effectivement la souveraineté, c'est-à-dire qu'une fois que le modèle a été publié, n'importe qui est libre de l'utiliser, donc on n'est pas dépendant d'un acteur.
Oui.
Une deuxième raison, c'est qu'effectivement en IA, la communauté open source est extrêmement active, donc dès lors que vous avez un modèle qui sort, vous allez avoir des élaborations, des versions dérivées du modèle, et qui vont être produits à leur tour en open source, et si le modèle n'était pas ouvert, s'il était ce qu'on appelle propriétaire, ça ne pourrait pas être le cas. Donc ça permet de bénéficier de l'innovation beaucoup plus rapidement. Et enfin, une troisième raison, qui est propre à l'administration publique, mais qui est importante dans notre cas, c'est que depuis 2016, depuis la loi pour la République numérique, les travaux de l'État sont par défaut ouverts. Donc les données de l'État doivent être en open data, les codes de l'État doivent être open source, donc c'est cohérent aussi qu'on utilise des modèles eux-mêmes ouverts qu'on va pouvoir republier à notre tour.
D'accord. Et vous disiez que vous utilisiez du coup deux grands modèles, Llama 2 et Mistral. C'est quoi la différence entre Llama 2 et Mistral? Pourquoi vous en utilisez deux? Il y en a un qui sait mieux faire un truc qu'un autre? Pourquoi on a besoin de deux modèles, ou de trois, ou de quatre? Comment vous jugez la différence entre les modèles finalement?
Alors en fait, c'est aussi pour une raison de déroulé de projet finalement.
Ouais.
Donc Llama 2 a un petit peu moins... date de juillet dernier, Mistral date d'octobre, je crois, maintenant.
Mm-hmm.
Donc on a amélioré nos modèles en continu, et on avait commencé à travailler sur les deux, on a gardé les deux jusqu'ici, sachant qu'il y a peut-être une différence quand même entre les deux, qui est assez intéressante, c'est qu'il y a plus eu de travail de modération des sorties de Llama 2 que de Mistral. Mistral étant un modèle peut-être un peu plus brut de décoffrage.
D'accord. Ok, donc en fait c'est plutôt une question de fraîcheur de modèles, vous les avez pris au fur et à mesure qu'ils sont venus, parce qu'ils étaient de mieux en mieux finalement.
Et, absolument.
Et voilà, et vous avez, d'accord, ok, c'est très clair. Et donc du coup, il y a votre équipe, on a parlé d'une quinzaine de personnes.
C'est ça, une quinzaine de personnes. Avec des profils d'experts en intelligence artificielle, des profils, une designeuse aussi qui va sur le terrain rencontrer les agents publics pour essayer de bien comprendre ce dont ils ont besoin et co-construire nos outils numériques avec eux,
ouais.
Et des profils de développeuses, développeurs, etc.
Et du coup, quand vous allez comme ça sur le terrain, quand vous rencontrez les différents services publics qui veulent faire appel à vous, il faut quand même vous assurer qu'en face, vous ayez des personnes qui comprennent ce qu'ils vont faire. Comment on fait monter en compétence les agents publics sur finalement l'usage, pas tant le développement, mais l'usage de ces outils? Comment on leur apprend tout simplement à prompter correctement s'il faut qu'ils promptent?
En les formant.
D'accord. Oui.
En les formant. Donc on a fait une, dans le cas des agents des Maisons France Service, on a fait deux formations. Une formation sur l'intelligence artificielle générative en général, donc pour bien comprendre ce que c'était, quelle opportunité, quelles limites ça pouvait avoir. Et après ça, on a fait une formation un peu plus spécifique pour apprendre à prompter en général et apprendre à prompter Albert en particulier.
D'accord, et c'est des formations qui sont en présentiel, qui sont en ligne,
En ligne.
On
les a fait en ligne.
Du coup, chacun peut venir se former au fur et à mesure.
C'est ça, et on va reproduire ce genre de formation avec d'autres services publics.
Et au-delà de votre équipe technique, est-ce que dans les autres ministères, il y a aussi des techniciens, des data scientists oui. avec lesquels vous travaillez? Comment ça fonctionne ça?
Oui, absolument. Donc on est en train de structurer une communauté de data scientists des services publics qui travaillent sur l'IA générative. Donc on en trouve beaucoup au ministère de l'économie et des finances, on en trouve aussi au ministère des armées, à l'intérieur, à l'INSEE, etc.
D'accord.
Et donc on a un groupe d'échange, donc chaque semaine j'ai un rendez-vous avec les équipes de Bercy pour discuter de nos avancées techniques, se conseiller, partager des codes, des expertises, etc.
Bon, ça plaît beaucoup à Jérôme qui a une nouvelle question. C'est inédit. Deux questions dans l'émission.
Oui, mais justement.
Tant mieux pour moi.
La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui un agent public, qui n'est pas encore fourni avec votre service d'IA générative, est-ce qu'il peut aller sur ChatGPT ou sur Gemini ou autre pour faire travailler l'intelligence artificielle sur une question qu'il a? Est-ce qu'il a le droit de le faire?
Est-ce qu'il y a une doctrine, en fait? C'est ça que tu veux dire? Est-ce qu'il y a une doctrine vis-à-vis de ça?
C'est une très bonne question. Il y a pas de doctrine qui a été publiée par la France sur le sujet. Donc, on recommande aux agents publics d'utiliser des outils souverains pour lesquels leurs données seront sur des serveurs maîtrisés.
Vous êtes là pour ça?
Et on est exactement là pour ça. Mais il n'y a pas de doctrine générique. Il y a certains services où la réponse sera évidente et d'autres où elle le sera moins.
Donc, c'est pas interdit, mais on va dire que vous essayez de proposer une alternative à ces offres privées et étrangères en plus, avec Albert. Et du coup, au-delà des usages, est-ce qu'il est prévu que justement il y ait un Albert un peu libre-service, quelles que soient les administrations, en mode un peu question-réponse finalement, comme ChatGPT, qui soit mis à disposition à un moment donné?
Alors c'est ce vers quoi on veut aller, mais sachant que une chose qu'on apporte avec Albert, c'est le fait d'avoir des réponses, questions-réponses sourcées. Donc, ils sont toujours adossés à une certaine base documentaire, et c'est quelque chose qu'on veut garder. Donc, dans la direction qu'on a en ce moment, c'est d'essayer de trouver un certain nombre, de préparer un certain nombre de bases documentaires qui peuvent intéresser un grand nombre d'administrations pour les mettre sur nos serveurs. Et à côté de ça, si certaines administrations ont des documents qui ne sont pas dans la base documentaire, on leur permettra de les ajouter, soit de manière permanente, soit de manière éphémère, le temps de poser leurs questions. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on veut vraiment garder tel quel, c'est des questions-réponses sourcées.
Et finissons justement sur ces perspectives, c'est quoi vos grandes perspectives là, dans des prochains mois, des prochaines années? C'est quoi les grands projets qui vont structurer vos travaux?
Alors c'est donc d'abord élargir le périmètre de ces questions-réponses sourcées, ensuite sortir un logiciel Albert Synthèse, donc celui qui est en cours de préparation, entre autres avec la Cour des comptes.
Ouais.
Et on est en train d'enquêter sur d'autres cas possibles. On a une grande réunion avec un ensemble de services pour essayer de faire émerger un troisième ou un quatrième grand cas.
Ouais.
Et on a des pistes sur la simplification du langage administratif, mais c'est encore à confirmer.
Ah bah écoutez, ça c'est très, très intéressant. Nous on a reçu ici un médecin qui a utilisé ces langages, ces modèles de langage en fait pour décrypter les petites synthèses techniques médicales en grande synthèse qui était intéressante. Et je pense que du coup ça si vous pour simplifier le langage administratif, ça il y a de grandes chances que ça fonctionne très bien. Écoutez, merci beaucoup Pierre-Étienne pour cette exploration d'Albert, c'est l'heure de conclure. Je vous remercie beaucoup pour ce partage. Pour les auditeurs, n'hésitez pas à liker cet épisode. Bien sûr, ça manipule les algorithmes, mais c'est cool de manipuler les algorithmes. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Je vous laisse entre de bonnes mains les émissions de Cause Commune. À bientôt.
À bientôt, merci.